Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au Désordre Mondial, je suis votre arbitre, Rachel Marsden. La mer de Chine méridionale. La Chine prépare-t-elle à une guerre? La Chine a récemment envoyé des bombardiers et des avions de chasse pour faire des patrouilles de combat et des exercices militaires près des îles contestées dans la mer de Chine méridionale. La Haye vient de décider que dans la dispute entre la Chine et les Philippines pour le contrôle de cette mer, c'est bien les Philippines qui remportent le match. La Chine a tenté de convaincre le tribunal que les projections rocheuses qui sont visibles à marée basse font que le territoire devrait faire partie de la Chine. Même le fait d'avoir construit des îles artificielles n'a pas réussi à convaincre le tribunal de la légitimité de la demande de reconnaissance de souveraineté chinoise. Il s'agit ici de 800 hectares de territoire artificiel rajoutés lors des derniers 18 mois, d'après les figures du gouvernement américain, qui sans vouloir se soustraire complètement de l'affaire, la considérant un conflit régional. Le tribunal avait aussi décidé que non seulement ça faisait partie du zone économique philippine, mais que la Chine avait violé les droits des Philippines en se mêlant dans les industries philippines de pêche et de pétrole. Il faut quand même reconnaître un effort herculien de la part de la Chine depuis ces dernières années de tenter de convaincre la Cour internationale d'une autre réalité. Pourquoi serait-il si important? Et la Chine va-t-elle maintenant laisser tomber toute cette affaire? C'est bien peu probable. Le président chinois Xi Jinping avait déjà annoncé, à la suite du verdict, que la souveraineté territoriale et les droits marins ne seront pas affectés, mais que la Chine continuera à résoudre les conflits avec ses pays voisins. Ceci veut dire quoi alors? On pourrait déjà deviner la réponse quand on voit que les patrouilles et exercices militaires ont intensifié à la suite du verdict. J'ai fortement l'impression que ce n'est pas les Philippines ni la Haye qui va dire à la Chine quoi faire. Qui va exécuter le jugement de la Haye? L'armée philippine toute seule? La crédibilité du droit international dépend des moyens de le renforcer. En plus, la Chine est en train de poursuivre des nouvelles alliances avec l'Ouest qui pourraient se faire que l'Occident ne se mêlera pas dans la dispute. Dernièrement, la Chine et son voisin, l'Australie, se sont engagés pour combattre le terrorisme dans la région, plus précisément pour éliminer le chef des terroristes islamistes en Indonésie. Avec Beijing adoptant l'attitude que cela pourrait servir comme point de rapprochement avec le bloc des pays anglophones occidentaux. Il est fort douteux que la Chine va lâcher la richesse économique de cette mer, les hydrocarbures, les poissons, surtout quand la Chine a une soif insatiable de telles ressources avec une population équivalente à environ 20% de celle du planète entier. On pourrait citer des décisions internationales ignorées par d'autres pays, tels que les États-Unis lorsqu'ils ont perdu contre Nicaragua en 1986, condamnés d'avoir soutenu les contrats contre le gouvernement de Nicaragua et d'avoir exploité et abusé des ressources minières du pays. À la suite de la décision, l'Amérique a bloqué l'exécution du jugement par le Conseil de sécurité des Nations Unies et n'a jamais payé la restitution. On attend à quoi alors avec la Chine? Qu'elle s'impose maintenant des restrictions par obligation morale? Et est-ce qu'on pourrait même dire que le tribunal de la Haye était compétent pour statuer sur la souveraineté? Ce qu'on pourrait apprendre de ce conflit, c'est que l'Asie du Sud devient une région économique de plus en plus importante au fur et à mesure que la course aux ressources planétaires s'intensifie. On a même vu le président américain Barack Obama s'annoncer en 2011 le stationnement de 2500 troupes marines américaines en Australie. À l'époque, Obama avait expliqué que c'était pour renforcer les alliés tels que le Japon et l'Inde, mais l'activité économique américaine dans la région s'intensifie aussi. On pourrait bien parler de l'opération minière de cuivre et d'or de Freeport-McMoRan dans la région, dont Des figures telles que Henry Kissinger et d'autres anciens conseillers de présidents américains ont tendance à figurer sur le board à travers les années. L'entreprise a même tendance à engager des anciens combattants des forces spéciales et les espions de la CIA et de MI6 pour développer et exécuter leurs opérations et surtout pour gérer les relations avec les autorités locales. Le New York Times avait dévoilé en 2005 et 2006 un système de corruption par lequel l'entreprise avait payé les autorités et militaires locales 20 millions de dollars américains entre 1998 et 2004 en violation de la loi américaine. C'est un bijou économique américain, Freeport-McMoRan, et c'est bien en Asie du Sud-Est, dans la même région qu'on remarque du coup toutes ces tensions régionales. Serait-il alors réaliste d'imaginer qu'un conflit militaire s'éclaterait dans la région? Avec moi aujourd'hui pour discuter de ce sujet, Béatrice Favarel est fondatrice du cabinet d'avocats marseillais Favarel et Associés et chevalier de l'Ordre du Mérite Maritime. Bienvenue à l'émission, Béatrice.
Merci Rachel, bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis honorée de faire partie de cette émission.
Merci beaucoup. Et alors, on peut parler, bien sûr, de la décision de la Haye, cette décision qui fait que la mer de Chine méridionale, les territoires qui s'y trouvent, sont bientôt, ils sont accordés à la souveraineté, pas accordés à la souveraineté de la Chine. Alors, ça veut dire quoi cette décision? Et est-ce que, en droit maritime, il y a souvent des conflits comme ça?
Alors en fait, le droit maritime est une matière qui est souvent, comme beaucoup de matières de droit, l'objet de litiges internationaux, de litiges de droit international public, et ces litiges sont très souvent résolus par voie d'arbitrage. L'arbitrage, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de règlement de litige qui peut être sous forme d'arbitrage institutionnel, par exemple la CCI, ou d'arbitrage ad hoc. Donc là, pour ce qui concerne cette question de la revendication des îles qui sont revendiquées par les Philippines, par le Vietnam et qui sont l'objet de toutes les attentions de la Chine, il y a eu effectivement un arbitrage qui a été rendu par la Cour internationale de La Haye. Une sentence arbitrale a été rendue, elle est définitive et aujourd'hui elle s'impose à la Chine. Mais la difficulté de cette sentence arbitrale, c'est que elle a été rendue ce qu'on appelle par défaut, c'est-à-dire que la Chine n'a pas comparu. La Chine a méprisé cette procédure d'arbitrage en considérant que la Cour de La Haye n'était pas compétente, que donc la demande d'arbitrage qui était introduite par les Philippines en janvier 2013 était irrecevable. Et c'est ce qu'on appelle une sentence par défaut. Pour autant, cette sentence a une valeur juridique et elle s'impose, elle a force comme une force de loi à l'égard de la Chine. Mais on sait tous que la Chine se comporte comme si elle était seule au monde et qu'elle méprise totalement, que ce soit les décisions onusiennes, que ce soit, et encore plus une sentence arbitrale telle que celle-là. C'est là aujourd'hui la difficulté.
Et comment ça se fait que la Chine pourrait argumenter que la Cour n'est pas compétente pour régler de tels sujets?
Alors, ça c'est une question un peu plus technique, c'est-à-dire que la Chine considère qu'elle ne peut pas relever de ce type de juridiction. Donc lorsque les Philippines ont lancé la procédure par voie de requête en janvier 2013, la Chine a envoyé une note verbale au département des affaires étrangères de Philippines pour indiquer que cette procédure n'était pas recevable, en précisant que ces deux pays, bien qu'ils soient l'objet d'un différend concernant une partie d'un zone maritime en mer de Chine du Sud, qu'il y avait en réalité des négociations bilatérales entre elles qui étaient en cours. En fait, c'est de la lucie, hein, comme on dit en droit, et que ce différend devait se régler par voie de négociations bilatérales. Voilà quel argument de la Chine, mais c'est pas un argument pertinent, hein, puisque d'ailleurs il a été rejeté par la Cour de La Haye.
Et est-ce que ce cours est compétent sur les sujets de la souveraineté? Parce que c'est ça, enfin, il s'agit de ça.
Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la demande qui a été formulée par les Philippines ne concerne pas la question de la souveraineté territoriale sur les îles Spratly, Paracels et Scarborough. Hein, donc, dans ce différend avec la Chine, les Philippines sont simplement venues demander au tribunal une clarification de ses droits en mer de Chine du Sud, en conformité avec la Convention sur le droit de la mer, qui est appelée la Convention de Montego Bay. Hein, donc, la saisine, s'appelle comme ça, de la Cour de la Haye, n'était pas de statuer pour savoir à qui appartiennent ces fameuses îles, mais de dire quels étaient les droits en mer de la part des Philippines, que ce soit en matière de pêche, que ce soit en matière d'exploration de forages pétroliers, puisqu'on sait que ce sont des zones très très riches en termes pétroliers, et c'est pour ça que la Chine s'y intéresse d'aussi près. Et en réponse, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour juger, puisqu'il y avait 15 requêtes qui étaient présentées par les Philippines, et le tribunal a considéré qu'il était compétent pour statuer sur 7 requêtes. Les autres requêtes ont été rejetées, donc ça prouve bien qu'il y a eu un examen préalable extrêmement précis de la part de la Cour d'arbitrage.
Et on pourrait bien citer des décisions internationales qui sont complètement ignorées par d'autres pays, par exemple les États-Unis, lorsqu'ils ont perdu contre Nicaragua en 86, condamnés d'avoir soutenu les contrats contre le gouvernement du Nicaragua. Et les États-Unis avaient décidé de ne pas payer la restitution. Et est-ce que les décisions dans les cours internationaux et les cours maritimes pourraient être ignorées comme ça? Et quelles sont les conséquences?
Si vous voulez, c'est très facile, hein, parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de moyens coercitifs, c'est-à-dire que pour pouvoir exécuter une décision de justice, que ce soit une sentence arbitrale ou un jugement d'un tribunal ou un arrêt de cour d'appel ou de cour de cassation, là, je me réfère au terme des décisions françaises ou alors décisions internationales comme celles dont vous venez de parler. Si vous n'avez pas de moyens de pression politique ou sous forme de chantage économique, enfin, c'est malheureux, mais les États l'ignorent. Enfin, si vous voulez, quels sont les moyens, hein, on le voit bien, hein, dans l'histoire, la violation des traités, etc. Ben, voilà, c'est malheureusement répété tous les jours. Donc, où vous avez un pays qui se comporte en pays de bonne foi, avec des gouvernants de bonne foi qui respectent les décisions internationales, ou alors vous avez des gens hors la loi. Bon, c'est malheureusement un peu le cas de la Chine dans ce domaine, et on le voit par exemple en matière environnementale, ils respectent absolument pas. Après, comment vous voulez faire? Il n'y a pas de moyen de coercition qui soit, à part peut-être pratiquer un embargo ou c'est compliqué. Après, ça relève de débats diplomatiques et géopolitiques, mais en tout cas en termes juridiques, respecte pas une décision de justice, à la force, vous voyez, c'est compliqué de exécuter une décision.
Et de vos côtés, comment est-ce que vous avez vu avant des décisions qui sont exécutées? Ça se fait comment si quelqu'un décide de l'ignorer tout simplement? Ou est-ce que pour la plupart...
Après, ça dépend dans quelle catégorie de pays, à quelle catégorie de pays vous voulez appartenir. Soit vous appartenez à un pays qu'on appelle une démocratie, soit un pays totalitaire, soit un sultanat, là je pense au Brunei, puisqu'il fait partie de ce bloc de pays de l'Asie du Sud-Est, hein, qui est un sultanat pétrolier, mais c'est un tout petit pays. Ça dépend dans quelle catégorie vous voulez vous ranger et à quelle table de discussion internationale vous voulez être invité. Ou alors il y a une puissance économique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage. La Chine a une telle puissance économique que de toute façon, elle ne craint aucune. Enfin, elle n'a pas de qu'est-ce que pèsent les Philippines au regard de la Chine? Rien. Enfin, je veux dire, c'est ça le problème. Qu'après, il y a eu un décalage en termes économiques et financiers qui fait que c'est très facile de continuer à se comporter comme si on était seul. Et alors que là, je vous invite, il y a un article qui était très, très bien fait de l'Institut supérieur d'économie maritime par Monsieur Touré, qui dit qu'au contraire, c'est un espace de prospérité qui a besoin de rapports apaisés entre ces membres de la GIEN, hein, qui sont les pays membres de cette association, pour viser à ce que chacun de ces pays puisse retirer le plus de ressources de cette zone de maritime qui est quand même très riche, hein. Donc il y a des enjeux qui sont extrêmement importants.
Et vous avez évoqué des soucis environnementaux par rapport à la Chine. Est-ce que il s'agit de quoi, enfin, en droit maritime?
Il y a un potentiel, si vous voulez, dans cette région en pétrole et en gaz naturel qui est extrêmement important. et puis bien sûr on peut exploiter cette ressource et quitte à imposer ce qu'elle appelle une politique de fait accompli, comme des forages qu'elle a fait dans le passé, c'est notamment le cas qu'on appelle le forage 981 de cette zone. Donc c'est-à-dire qu'elle se comporte, que c'est ça la politique de fait accompli, elle hors normes réglementaires en matière d'exploitation offshore, sans respect des normes internationales, toujours cette fameuse convention de Montego Bay, de la convention Marpol, donc c'est ça qui est dangereux.
Mais bon, on a une devise en anglais, on dit que l'utilisation c'est 90% de la possession. Est-ce que c'est vrai en droit maritime?
D'accord, c'est une devise anglo-saxonne, mais c'est intéressant. Oui. L'équivalent en droit, je dirais que c'est un article du code civil qui dit en fait de meubles, la possession vaut titre. Ça veut dire que quand vous êtes... Vous utilisez un bien meuble, ben ça veut dire que ça signifie que vous l'êtes considéré comme le propriétaire de cette chose. Donc ça rejoint un peu la philosophie de cette devise. Oui, quelque part, c'est comme ça que fait la Chine. Exactement, je suis là, donc je me comporte comme le propriétaire, je fais ce que je veux. Et oui, bien sûr, c'est ça, tout à fait. Ça revient à ça.
C'est quoi le recours pour les autres pays, par exemple les Philippines? Qu'est-ce qu'ils devraient faire maintenant? Ils ont une armée, mais c'est clair qu'ils ne vont pas opposer l'armée chinoise qui est maintenant très présente dans la région depuis la décision de la Haye. Alors, ils sont alliés des États-Unis, bien sûr, mais les États-Unis ont tendance de ne pas vouloir se mêler dans une affaire régionale comme ça. Est-ce que c'est votre avis aussi que les États-Unis semblent ne pas vouloir se mêler de l'affaire?
Déjà, il y a un problème, il y a un flou au niveau du tracé des frontières. On part de là. Il y a déjà une difficulté d'interprétation puisque chaque pays a sa propre interprétation concernant ce qu'on appelle la zone économique exclusive et le tracé, la délimitation des frontières maritimes. C'est de là que partent toutes les ambiguïtés et que découlent tous les problèmes. Donc c'est pour ça qu'à mon avis que les États-Unis d'abord ne veulent pas s'en mêler parce qu'il y a des enjeux politiques trop importants. Le problème vient de là, c'est qu'il faudrait au départ que la sentence arbitrale qui a été rendue, bon ça ce serait l'objet d'un autre débat parce que c'est un peu court aujourd'hui pour parler de ça, malheureusement ne résout pas cette question transfrontalière. Donc
et normalement c'est oui, et c'est normalement quoi le rôle de la France dans de tels conflits? Où est-ce qu'il se mêle dans ces affaires?
Alors la France est assez concernant ce conflit. Non, la France, elle ratifie la convention de Montego Bay, la convention Marpol, mais en revanche, elle n'a pas de, il n'y a pas d'implication à ma connaissance. Hein, bien sûr, je peux me tromper. Il n'y a pas d'implication. Il y a eu beaucoup effectivement de spécialistes français de géopolitique, de chercheurs. Patrick Ebrard, Valérie Niquet, la personne de Lise Aymard dont je parlais, Paul Touré, qui ont réfléchi à cette question. Mais en revanche, non, il n'y a pas de l'État français n'est pas impliqué dans ce litige.
Non. Et grosso modo, quels sont les plus grands enjeux aujourd'hui dans le droit maritime? On parle toujours de ce conflit-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ignorés ou ailleurs, les deux?
Alors, dans cette zone, l'enjeu, c'est le pétrole, ça c'est sûr et certain, donc c'est ça Et donc votre question, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'il y a d'autres conflits dans d'autres parties du monde qui soient similaires? C'est vrai que une telle bagarre pour en fait des petits rochers, hein, puisque ces îles sont de véritables rochers, puisqu'elles sont même pas considérées comme habitables, c'est assez exceptionnel et c'est quand même propre à cette région. Il n'y a pas de conflit équivalent. Après, il y a des difficultés dans le golfe du Mexique, frontière entre les États-Unis, le Mexique au niveau des ressources offshore, non, il n'y a pas véritablement de là que les choses sont très claires au niveau transfrontalier. Non, je pense qu'il y a ce litige, n'a pas vraiment d'équivalent. Il est assez atypique, en fait. Hein.
Et est-ce que la Chine, c'est vraiment le mauvais enfant du domaine? Est-ce que, du point de vue des avocats maritimes comme vous, est-ce que vous considérez que la Chine est un peu à part dans les conflits maritimes, dans leur comportement en mer?
Oui, parce qu'aujourd'hui, la Chine est en train de devenir une véritable puissance maritime, ce qu'elle n'était pas historiquement. Et on le voit dans le domaine de la construction navale, hein, où les Chinois ont acquis des chantiers de construction navale, de médailles de luxe, des chantiers italiens comme Ferretti. Donc il y a vraiment une volonté de positionnement extrêmement forte. Et donc tout ce qui est, hein, puisque la mer représente une richesse extrême, je pense qu'aujourd'hui la Chine est dans une espèce de frénésie de puissance et que rien n'arrêtera. Je pense que là-dessus, il n'y a pas d'illusion à se faire. Donc c'est pas des petites sentences arbitrales ou des conventions internationales qui vont... donc là, il y a une vraie réflexion à avoir, mais ça dépasse les domaines des avocats maritimes. Ça, au niveau diplomatique et politique, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, parce que même si on a l'impression que c'est un pays éloigné, regardez ce qui s'est passé pour Fukushima. Voilà, c'est un problème de centrale nucléaire, mais c'est quand même, il faut faire... Enfin, à mon avis, il y a une extrême vigilance à avoir là-dessus, hein, pour devenir notre planète, en tout cas.
Et pourquoi est-ce que vous croyez que la Chine a décidé que s'ils construisent des îles ou rajoutent à des îles qui sont déjà là et qui sont déjà les leurs, que ça aiderait leur cas devant la Haye?
Que ça, j'ai pas entendu la fin, que ça aiderait leur...
Leur cause.
Leur développement,
ouais.
C'est ça?
Mmh. Que ça aiderait leur cause.
Alors en fait, je crois que là, ils ont fait ce qu'on appelle la polgarisation de ces îles. Non, je pense qu'ils veulent en faire des bases aéronavales. Je pense que c'est ce qu'il y a. Ils se fichent éperdument de savoir si ça va ou pas améliorer leur situation juridique au regard d'instances arbitrales comme la Haye. Non, je pense que ça, eux, ce qu'ils voient, c'est simplement leurs intérêts économiques et politiques, hein, c'est tout, et financiers.
Mmh. Et est-ce que c'est permis de faire ça, de s'il y a des îles dans une région contestée, de tout simplement faire grandir l'île et rajouter? Et de dire, c'est à nous.
C'est hallucinant. Non, c'est hallucinant, mais bien sûr, ça s'appelle l'appropriation de biens publics qui est pourtant... Non, absolument pas. Là, c'est au mépris de toutes les règles de zone économique exclusive, de la Convention de Montego Bay. C'est vraiment complètement contraire à toute la réglementation internationale.
Béatrice Favarel, fondatrice du cabinet d'avocats Mercier, Favarel et Associés, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et merci à vous. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur sputniknews.com ou desormondial.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.